There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Galerie Chagnon, Lille, 96.9 FM, The Alternative
Radio. Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18 heures. À CJMD 96.9, l'Alternative Radio.
L'Alternative Radio. Téléchargez notre appli.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin, courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous êtes à l'écoute de La Bulle Immobilière. On est avec mon acolyte Kevin Filion. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien, Jeff. Puis on est concept ce matin quand même. On a commandé une belle petite neige pour un invité qui vient nous parler de la guignolée.
Vraiment.
C'est cool, ça.
C'était parfait.
C'était parfait. Puis tout est important pour la guignolée. Soyez à l'écoute jusqu'à la fin. On a besoin de vous. On reçoit, tu le dis d'emblée, Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Merci d'être avec nous.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs.
Oui, tu nous as présenté ta carte chouchou.
Oui.
Que t'as maintenant.
Oui.
Exact. Puis pour vrai, là, c'est un honneur pour nous, notre équipe, de pouvoir te côtoyer quand même régulièrement dans... Tu sais, ponctuellement dans l'année. On va être toute l'équipe présent aussi là pour la grande guignolée. Puis le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, on se le cachera pas, vous l'avez eu dur avec la pandémie. C'est difficile autant pour les entreprises que des organismes comme vous, qui est là pour aider les gens. Puis tu sais, majoritairement, les fonds arrivent pas...
Ça tombe pas du ciel comme la neige de ce matin, non. Malheureusement.
Puis ça fait en sorte aussi que ça devient un peu plus difficile d'avoir des sous pour donner des services, de pouvoir entretenir les services avec les différents besoins pour souvent des enfants qui sont issus d'une famille vulnérable. C'est un peu comme ça aussi. Oui. Puis si on faisait un peu le portrait du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, si on faisait le portrait aussi de où ça vient, juste pour se remettre...
Remémorer, mais c'est intéressant, je pense, à chaque fois de refaire ce message-là, tu sais, l'origine, parce que on l'oublie d'une année à l'autre, mais aussi parce que il y a des nouvelles personnes qui s'y intéressent, fait que je pense que c'est toujours intéressant là, de partir du début. Tu sais, je trouve ça toujours intéressant de dire que la pédiatrie sociale, oui, ça a été créé au Québec, là, le nom Centre de pédiatrie sociale par Dr Julien à Montréal. Par contre, c'est des concepts qui existaient ailleurs dans le monde. C'est pas nous qui avons tout défini ce nouveau concept-là. En Europe de l'Est, notamment, c'était une pratique qui utilisait couramment. Puis en fait, c'est une pratique qui est très simple. C'est qu'on se centre sur une personne qui a des besoins, sur une famille qui a des besoins. On travaille en systémique, c'est-à-dire on travaille avec la personne concernée, mais avec tout le monde qui l'entoure. De par le fameux proverbe, hein, ça prend tout un village pour élever un enfant, ben c'est ça. On a besoin d'une communauté pour s'occuper des gens qui ont des besoins. Puis, tu sais, si on regarde autrefois, si on regarde de l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, c'était des grosses familles. Tout le monde se mobilisait pour aider tout le monde, le voisin, la voisine, les oncles, oncles, les tantes, les, tu sais, tout le voisinage, même le curé s'en mêlait souvent, aller chercher de la nourriture à ceux qui en avaient pas. Puis tout ça, c'est comme effrité avec le temps. Puis c'est juste de revenir à un modèle où est-ce que tout le monde est considéré comme étant important, tout le monde qui gravite autour de cette personne-là, en l'occurrence ici, c'est des enfants. Puis on met à profit les forces de tout ce beau monde-là pour en arriver. Fait que c'est juste ça, dans le fond, la pédiatrie sociale. Là. C'est pas,
puis vous le centralisez, dans le fond.
On le centralise.
Ce qui évite, oui, comme on dit souvent, tu sais, l'information qui se perd, oui, ou les suivis qui sont pas faits.
Les suivis pas faits, ou trop de monde aussi. Ouais. Tu sais, trop d'intervenants de différentes origines, différents milieux. Ça devient comme une jungle, à un moment donné, comment s'y retrouver. Fait que si on assoit tout le monde ensemble, puis on travaille tout le monde dans le même sens, c'est beaucoup plus porteur.
Puis en même temps, tu sais, d'avoir plusieurs intervenants qui sont aussi bons, mais de différents milieux. Par exemple, un à l'hôpital, ouais, un au CLSC, un autre endroit. Mais ça fait en sorte que la communication interne est peut-être moins efficiente aussi. Puis le fait que le Centre de pédiatrie sociale de Lévis regroupe tous les professionnels au même endroit, oui, ben ça fait en sorte que sur l'heure du dîner, on peut encore parler d'un dossier puis dire, hey, j'ai oublié ça, j'ai oublié de t'en parler de, oui, ça, puis de pouvoir avoir l'épaule à la roue pour vraiment aider, puis de répondre complètement aux besoins de l'enfant. Là.
Oui, puis c'est intéressant ce que tu nommes, Jean-François, parce que effectivement dans nos milieux en pédiatrie sociale, l'enfant qu'on rencontre, qu'on suit, n'appartient pas à un intervenant. Il appartient à l'équipe du centre de pédiatrie. Parce que chaque personne dans cette équipe-là a ses forces, ses spécificités aussi au niveau professionnel, puis va être capable d'offrir quelque chose de différent. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les milieux, c'est qu'on travaille en vase clos. On en parle depuis des années, c'est pas d'hier. Là. Puis tu sais, je pense que c'est tout milieu confondu. Pour toutes sortes de raisons administratives qui ont peut-être jamais été revues, qui pourraient être revues éventuellement. Nous, chez nous, c'est pas comme ça. Fait que si je vais nommer un nom par hasard, un petit Jacob, par exemple, si Jacob vient nous voir, n'importe qui dans l'équipe va savoir c'est qui Jacob, puis va savoir c'est qui sa situation à Jacob. Fait que peu importe quand il va se présenter, si son intervenant régulier, à titre au dossier, n'est pas présent ou pas disponible, quelqu'un d'autre prend le relais. Fait que c'est aussi la force d'une équipe, je pense, puis c'est ce qui fait que ça réussit bien avec ces enfants-là, parce qu'on a multiples professionnels, multiples choses à offrir autour de ces personnes-là, puis ça se passe tout à la même place. Fait que ça devient, fait que pour faire du pouce sur ce, oui, que tu disais, effectivement.
Puis tu sais, moi, qu'est-ce que je pense aussi, c'est que les différents intervenants peuvent donner une piste de solution aussi, oui, à un autre professionnel qui va dire, écoute, dans le langage avec le père, la, oui, mère, ben amène une discussion beaucoup plus axée sur tel élément qui va faire en sorte que la compréhension va se faire beaucoup mieux, qui, oui, va faire en sorte que par la suite, le pédiatre va pouvoir mieux travailler avec l'enfant ou peu importe.
C'est ça, j'allais dire, tout le monde met son grain de sel sans, oui, nécessairement être sollicité ou dire, gars, t'as une problématique, mettons, d'orthophonie, donc, oui, on va rajouter l'orthophoniste à ton suivi. S'il est déjà là, comme tu dis initialement, oui, il peut, lui, peut-être tout de suite identifier des choses. Puis,
c'est tout le monde rapidement, c'est ça. Il n'y a pas de liste d'attente à un autre professionnel. Ouais. Pour avoir les services. Puis, tu sais, ce que j'aime nommer, bon, nos familles, t'en parlais d'entrée de jeu, c'est, bon, des clientèles qui sont en situation de vulnérabilité. Vulnérabilité, on pense tout le temps à pauvreté financière, mais ce n'est pas que ça, c'est, mm-hmm, au-delà de ça. C'est des gens qui ont de la difficulté à aller chercher des ressources, l'accessibilité des fois pour aller chercher un service quand c'est à 30 minutes de voiture puis qu'il n'y a pas de voiture. Tu sais, ça devient tout des enjeux, des défis.
C'est déjà difficile, puis, même qu'on a les moyens.
Ah, totalement, parce que comment on peut des fois se dédoubler, se détripler pour essayer d'aller à toutes sortes de rendez-vous. On travaille, on, ouais, tu sais, il y a quand même, c'est quand
même. Il y a des réalités aussi qui sont complètement différentes. Tu sais, on pense qu'Internet, c'est gratuit pour tout le monde. On pense que tout le monde a accès à Internet, qui ont accès à un téléphone. Puis la réalité, non, c'est pas le cas non plus, là. Tu sais, vous avez des familles qui ont des téléphones à carte.
Oui. Ils peuvent pas attendre sur la ligne pendant 20 minutes, 30 minutes pour essayer d'avoir une ligne, pour avoir un rendez-vous. Je pense que tout le monde en est conscient depuis le début de la pandémie. Avoir accès à un médecin, c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle. Beaucoup de familles sont sans médecin de famille, savent pas trop se diriger, savent pas trop consulter. Puis la pédiatrie sociale, ce qu'on a développé, oui, pour s'occuper des clientèles vulnérables, c'est une expertise tout ce qui est le développement de l'enfant dans toutes ses sphères, tout ce qui est le décodage des enjeux que peuvent vivre des gens qui évoluent dans un contexte de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça l'amène comme impact chez des enfants? Ben, nous, on est rendus les spécialistes de tout ça. Fait que pour nous, c'est facile d'arriver, puis tantôt tu le nommais, de dépister une problématique, puis après ça, de mettre en place une équipe. On n'a pas besoin d'aller faire évaluer ici et là. On a dans notre équipe tout ce beau monde-là qui va faire cette évaluation-là. On est hyper formés dans toutes les sphères d'attachement, de tout ce qui est maltraitance. On a des experts qui sont formés là-dedans. Nos médecins sont formés aussi dans différentes sphères qu'on ne retrouve pas nécessairement chez un pédiatre qui travaille à l'hôpital. On va chercher des formations supplémentaires parce que c'est des problématiques précises qui s'adressent davantage aux aux gens en situation de vulnérabilité. Donc, on devient les experts de ces enfants-là, mais tout se passe chez nous, tout se diagnostique chez nous, puis après ça, tous les systèmes se mettent en place. Puis c'est sûr qu'on travaille en collaboration avec une DPJ, avec un hôpital, avec un CLSC. T'sais, on fait pas de radiologie chez nous, on fait pas de résonance magnétique chez nous.
Mais par contre, les résultats sont beaucoup plus rapides. Ben parce oui, que, tu sais, l'orthophoniste, oui, vous avez pas besoin d'attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous, puis après ça, d'attendre 2 semaines pour avoir le résultat, oui, pour après ça, analyser et amener peut-être une intervention. Fait que vous êtes capable de réagir très rapidement.
On se met en mode action rapidement. Puis, tu sais, je pense que, en fait, ils le méritent, ces enfants-là. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Tu sais, on sait qu'un enfant, autrefois, on disait de jusqu'à 5-6 ans, le cerveau, c'est comme de la pâte à modeler, puis on peut toujours le manipuler comme on veut pour qu'il reprenne un peu ce qui a manqué. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se rendre jusqu'à 8-9 ans, là, tu sais, que le cerveau de l'enfant, okay, est encore malléable. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir puis offrir les services. C'est quand on voit un enfant qui a 5 ans, puis qui a des grands retard au niveau de son développement, ne serait-ce que de marcher, que de parler, que de manipuler des objets, tout ce qui est dextérité, motricité. Puis quand on rentre à l'école, on en a besoin. Là, on sait que c'est comme ça. Mais si on se rend compte à 5 ans que cet enfant-là n'a pas les acquis, ben on va pas le mettre sur une liste d'attente puis attendre un an et demi avant qu'il puisse recevoir le service. Chose que c'est ça qui se passe actuellement dans, ouais, notre système. Il manque de monde. On l'entend là. Tu sais, c'est pas moi qui l'invente. C'est écrit partout. Ben nous, on va se mobiliser puis on va les offrir ces services-là à l'enfant puis on va mettre encore plus d'intensité puis de rigueur pour être capable de le faire récupérer, pour qu'ils puissent, après ça, être un peu au même niveau que les autres, ouais, enfants, finalement. Là.
Puis vous devez avoir une demande pas possible, dans le sens comment vous êtes, oui, capable justement d'identifier ou de vous concentrer sur certains dossiers.
Ben, je dirais que dans la dernière année, avec le manque de médecins, le manque de ressources, ouais, spécialisées, beaucoup de gens nous interpellent, mais on est très très restrictif, on est sélectif, c'est-à-dire que notre mission, c'est vraiment de s'attarder aux clientèles en situation de vulnérabilité. Donc, on va s'assurer que cette situation-là, elle est présente chez eux, ce qu'on appelle vulnérabilité. Puis, tu sais, je parlais tantôt, c'est pas seulement pauvreté financière, hein, c'est tout ce qui est isolement social, tout ce qui est manque de services, ce qui est des fois santé mentale fragile chez les, ouais, parents, qui fait qu'ils ne sont pas capables de bien prendre soin de leur enfant. Donc, on va être là pour les accompagner. Fait que tout ça s'englobe dans une vulnérabilité. Fait qu'on va s'attarder à ces gens-là parce qu'on se dit que les autres, oui, il y a des listes d'attente, mais ils sont quand même capables de faire un bout de chemin avec leur enfant, tu sais, de le stimuler eux-mêmes, de s'asseoir à terre puis de lire un livre avec l'enfant. Chez nos familles, c'est pas nécessairement acquis. Il faut leur montrer comment le faire. Fait que celles-là, on les veut, ces familles-là. Fait que oui, on est sélectif. On doit refuser des gens, malheureusement. On les refuse toujours en les orientant ailleurs. Là, ouais, on leur dit pas non merci, allez-vous-en puis organisez-vous. Là, on offre quand même autre chose là,
pour ça, la c'est vraiment important aussi. Là.
Oui. Oui, sinon, on ne se ramasse pas de... Mais dans le fond, on comprend que c'est le contexte familial, ouais, qui est surtout qui vous permet de sélectionner, ben pas sélectionner, mais de choisir un peu.
De choisir. Parce que si on sent qu'il n'y a pas un tissu soutenant, ouais, une famille qui est soutenante ou qui est en mesure... Tu sais, des fois, on rencontre des familles, on soulève des enjeux développementaux chez l'enfant, on va le nommer aux parents, puis le parent va dire, ben non, c'est pas grave, tu sais, moi, je suis pas allée à l'école, puis aujourd'hui, je m'en sors quand même bien. Puis je comprends, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour ton enfant pour lui permettre peut-être d'avoir un choix à un moment donné, de décider d'aller, de continuer d'aller à l'école ou d'arrêter, ouais, d'y aller, ou d'orienter une carrière éventuellement. Fait que tu sais, nous autres, ceux-là, on va leur dire, tu sais, oui, t'as raison, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire à ton enfant. On essaie-tu de changer le cours des choses? On essaie-tu de changer sa trajectoire? Fait que c'est un peu ce qu'on veut faire, mais il y a des gens qui, ça, naturellement, par le tissu social qu'ils entourent, c'est-à-dire grand-papa, grand-maman ou les oncles, les tantes, on le sait qu'ils vont être capables de se mobiliser par eux-mêmes. Fait que, ouais, ceux-là, on va leur donner un petit peu moins d'attention, on les prendra juste pas chez nous, puis on va les référer à un médecin de famille ou à un pédiatre là, qui travaille au régulier, pour nous vraiment se concentrer sur ceux qui n'ont pas accès à ces services-là. Là.
Puis d'un autre côté, vous vivez aussi des nouveaux arrivants qui font, ouais, en sorte qu'ils sont isolés aussi, leur famille n'est pas là pour les, ouais, aider, sont avec des enfants, l'emploi est difficile actuellement, tu sais, pour diverses raisons, puis ça fait en sorte ben ils se retrouvent dans un contexte de vulnérabilité, puis vous êtes là pour les accompagner puis les aider. Puis, tu sais, à toutes les fois que je suis allé vous rencontrer au centre, qu'on a parlé, qu'on fait nos entrevues, je me retrouve toujours avec les yeux pleins d'eau. Je trouve ça vraiment difficile. Dans le premier confinement, on avait fait avec vous là du bénévolat. Je venais, ouais, avec mes trois gars. Je mettais mes trois gars à la banquette arrière. On allait chercher des denrées dans les épiceries. Puis vos partenaires étaient extraordinaires. On est allé au Cégep, chez Provigo, ouais, des super bons partenaires. Puis par la suite, le centre faisait des paniers de nourriture pour les familles, puis les familles venaient chercher des paniers de nourriture pour eux, là, parce que tu sais, quand la pandémie a frappé, c'était important, là, un des premiers besoins criants, c'était de se nourrir, puis on n'arrivait pas à ça, puis ça m'a tellement shaké, puis mes enfants, tu sais, ils venaient avec moi, puis ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, papa, puis là, j'ai dit, ben écoute, on va aller aider des enfants, tu sais, on va aller aider des enfants, puis c'est sûr qu'à 5, 3 puis 1 an, les enfants ne comprennent pas tout ce qui se passait par rapport à ça, mais les impliquer rapidement dans ça, ça fait en sorte que, tu sais, ça va être des souvenirs qui vont rester quand même gravés là, quand on refait des activités avec eux. Ils vont savoir pourquoi qu'on le fait puis pour quelles raisons qu'on le fait aussi. Puis, tu sais, moi, ça m'avait shaké énormément. Là. Puis, tu sais, suite à ça, notre équipe, on s'est engagé à donner 200$ à tous les mois à une famille dans le besoin, ou ce qu'ils ont besoin de nourriture, etc. Puis chacune des personnes qui nous réfèrent, ben on rajoute 50$ de plus en épicerie. Puis l'année passée, tu sais, des fois, comment qu'on pense que ça peut pas arriver, des choses comme ça, la famille avait reçu, je pense, 300 ou 350$ juste avant Noël. Puis la famille, elle a dit, la madame, elle dit, est-ce que je peux m'acheter du Pepsi pour moi? Puis tu sais, est-ce que je peux acheter du jus pour mes enfants? Puis pour vrai, ça m'a shaké, là, parce que, tu sais, je me remémore que ça m'est déjà arrivé de boire du Pepsi puis de m'échapper à temps puis de l'essuyer avec mon bas, là. Tu sais, puis personne ne l'a vu. Puis tu sais, elle, c'était pas de la boisson, c'était pas quelque chose d'extrême, là. C'était vraiment juste de se gâter avec du Pepsi. Puis là, j'étais comme, crime, on n'est pas à la même place.
C'est quand même Noël, là. On va le permettre, le Pepsi.
Ben, c'est des fêtes, un petit gâteau. C'est une réalité qui est autour de nous.
Ben oui. Puis qu'on voit pas. Puis pour moi, ça m'a shaké énormément, ça. Puis c'est donc important de continuer ces engagements-là. Puis tu sais, nous, on a des engagements justement avec différents organismes, dont vous. On va en parler plus tard aussi. Mais tu sais, le don alimentaire, moi, je pense que c'est un don que je vais conserver avec votre organisme pour les prochaines années. Fait que tu sais, c'est donc important d'aider. Puis on pense pas qu'ils vivent ces réalités-là. Puis tu me disais aussi, tu sais, un enfant qui est malade, là, nous, on descend dans notre bureau, on va sur Internet, on attend 5 heures que le site de la clinique ouvre, puis on prend rendez-vous. Mais les gens, ils ont pas de voiture, ils ont pas Internet à la maison. Fait qu'ils partent avec leur tipou au McDonald's pour avoir accès à Internet, pour prendre le rendez-vous. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Tu sais, c'est une réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne pense pas. Puis une des choses que tu mentionnais, qui m'avait shaké beaucoup aussi, c'est pendant la pandémie, ils ont fermé les écoles. Mais tu sais, c'est un de vos premiers filets, les écoles aussi, là, pour
c'est
les enfants.
Oui, tout à fait.
Les enfants se retrouvaient finalement avec un contexte, puis là, tu sais, tu pourras peut-être plus renchérir là-dessus, mais un contexte familial où ce que les parents sont violents, ou les parents sont en boisson, ou des choses comme ça. Puis des fois, c'était peut-être juste le moment de répit pour l'enfant d'être à l'école, de pas se faire battre, de pas entendre ses parents crier, gueuler, tu sais, puis de pas dormir la nuit parce qu'il a peur pour sa mère, parce qu'elle va se faire battre toute la nuit. C'est des réalités qu'on pense pas, puis j'ai des frissons de ça, là.
Puis tu sais, tout ça, c'est drôle parce que ce que tu nommes, tu sais, souvent quand on parle de la pédiatrie sociale, les gens nous disent, ben on a vraiment besoin de ça à Lévis. T'sais, on pense que la ville va bien. On a une belle ville, hein, tu sais, les maisons sont propres, les quartiers sont propres, on pense que tout le monde travaille, qu'il y a un plein emploi partout et tout. Le plein emploi, on y repassera, là, parce qu'il manque vraiment de main d'œuvre, là, mais tu sais, on pense que tout va bien, mais en réalité, derrière les murs de certains appartements, certains blocs appartements, certains quartiers davantage. Tu sais, il se passe ce genre d'affaires-là. Puis nous, c'est cette clientèle-là qu'on veut voir. Les enfants, tu sais, il y a un amour inconditionnel entre son enfant puis son parent. Par contre, l'enfant n'a pas nécessairement demandé à venir au monde dans ce milieu-là. Puis nous, ce qu'on doit faire, c'est s'y attarder. Tu parlais de nourriture, puis vos cartes cadeaux qu'on offre, écoute, ça fait toute la différence. C'est pas notre mission de donner de la nourriture. Par contre, dans la pandémie, quand on voyait que les besoins de base n'étaient pas comblés, notamment celui de manger, tu peux pas être fonctionnel si tu ne manges pas, là. Tu sais, c'est le cours de la vie. On l'a toujours appris comme ça. Notre corps humain a besoin d'être nourri pour carburer, pour être capable d'avoir de l'énergie pour fonctionner. Fait que comment on pourrait penser qu'un enfant qui ne mange pas à sa faim puisse apprendre à l'école, puisse être fonctionnel? Comment on peut penser qu'un parent qui ne mange pas à sa faim puisse se lever le matin puis aller travailler puis être fonctionnel? Fait que l'aide alimentaire pendant la pandémie, nous, on l'a inventée parce que c'est pas notre mission. Il y avait des banques alimentaires, mais qui étaient débordées de demandes. Donc, on s'est reviré de bord. Tu as été celui qui a contribué aussi avec nous, oui, en allant chercher les denrées, fabriquer les paniers, aller livrer les paniers, puis ça l'a fait la différence. Fait que là, on venait d'éliminer ce que nous, on appelle un stress toxique. Les stress toxiques, c'est tout ce qui devient envahissant dans la vie puis qui brime le développement. Fait que l'alimentation en fait partie. Fait que là, on avait enlevé ce stress-là aux parents. Maintenant, restait à focusser, à essayer de passer, comme tout le monde, à travers la pandémie, à travers le stress que ça emmenait, à s'occuper de l'enfant qui était en téléenseignement ou, tu sais, à la maison. Oui, c'est passé des choses épouvantables dans nos dans les foyers de nos familles, où est-ce que la violence, la consommation, tu sais, le stress relié à la pandémie, c'est extériorisé de différentes façons pour tout le monde. Il y a des gens qui ont réussi à passer à travers la tête haute, puis d'autres se sont vraiment sentis affectés, puis encore aujourd'hui, tu sais, on en croise là des gens.
Puis nous-mêmes personnellement, il y a certains irritants qu'on vit à différents niveaux, puis on a un niveau de tolérance qui est pas du tout le même depuis le début de la pandémie. Là. Au début de la pandémie, tu dis bon, ben écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On est plus dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis par la suite, ben on devient plus critique. Puis on devient.
Et comme tu dis, quand le contexte est déjà toxique à la maison, c'est pas ça qui va l'améliorer ou corriger.
Parce que là, on cloître des gens dans des 3,5, des 4,5, avec des murs en carton pour certains appartements. On entend tout ce qui se passe à côté. Ça devient ahurissant de vivre 3, 4, 5 sous le même toit, 24 heures sur 24, avec des interdictions de sortir, de voir des gens, d'aller les magasins fermés, les ressources fermées. Fait que veux pas, ça devenait très lourd. Fait que oui, il y a eu des histoires de violence. Puis tu sais, la beauté là-dedans, c'est que, puis je pense que j'en avais déjà parlé, l'aide alimentaire a été pour nous une façon de garder contact avec nos familles, d'aller les voir. On allait livrer la nourriture, je me rappelle, avec le médecin, puis on disait, faites sortir les enfants parce qu'on rentrait pas à l'intérieur. On leur disait, on veut voir tout le monde sur le bord du trottoir chercher les paniers de nourriture. Ça nous permettait de visualiser comment vont les cocos, tu sais.
De poser des questions aussi. Quoi.
Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde s'est tourné vers les Zoom, les Teams, peu importe les plateformes. Nos familles qui ont pas qui avaient pas le Wi-Fi à la maison, qui avaient pas internet, comment on pouvait les rejoindre? Puis oui, les écoles sont nos yeux. Puis tu sais, je me rappelle cette période-là, on était en contact à tous les semaines avec la DPJ qui était super inquiète parce que il y avait plus de signalement. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas positif, plus de signalement quand ça va pas bien. On se disait, il y a personne qui les voit là. Tu sais, on est isolés chacun chez nous. Comment on va retrouver nos enfants là-dedans? Un an et demi plus tard, on est capable de dire, tu sais, qu'il y a eu des gros Il y a eu des choses qui se sont passées atroces chez nos enfants. Puis là, on voit que les enfants essaient de récupérer tant bien que mal. À tous les égards, là, tu sais, au milieu familial, dans le milieu familial, mais dans le milieu scolaire, ça a été la même chose. Il y a des retards, mais des retards. Il y a une capacité sociale qui a changé. Tu sais, la semaine dernière, j'étais à quelque part dans une salle d'attente, puis il y avait une maman avec sa petite fille sur les genoux qui avait 9 mois à peu près. J'ai mon masque, puis à travers mon masque, je lui faisais des sourires et ça m'a fascinée de voir qu'un enfant de 9 mois est capable, à travers tes yeux, de remarquer que tu souris parce qu'elle me faisait des grands sourires puis elle s'excitait devant moi juste parce que elle voyait dans mes yeux que c'était un sourire. Je te disais, elle a 9 mois puis elle est capable de décoder sans voir le bas du visage, l'expression faciale du bas du visage que je suis en train de lui sourire. C'était fascinant à voir, mais en même temps ça a amené un côté chez ces enfants là qui sont nés dans la pandémie puis qui se sont développés dans la pandémie. L'aspect social, ils l'ont pas développé, d'aller dans les bras de quelqu'un d'autre, d'apprendre à se faire garder par quelqu'un d'autre, d'apprendre à aller dans une garderie. Ça s'est pas développé. Fait que ça aussi, c'est des grandes failles au niveau développemental chez un enfant. Là, nous, on le décortique aussi, là, ces développements, ces failles.
Nous, on a chacun 3 enfants, puis mon dernier, William, qui a 2 ans, ben, tu sais, c'est un bébé issu de la pandémie. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de difficultés à avoir des nouvelles personnes, de s'intégrer dans des groupes. Il était toujours dans nos jeux, puis tu sais, toujours collé en arrière de papa, maman, quand il voyait d'autres gens. Puis on le voyait des impacts. Puis tu sais, heureusement, on est très actif, qui fait en sorte qu'on voit beaucoup de gens, puis on a pu ramener ça très rapidement. La garderie a aidé énormément aussi, mais c'est des symptômes de pandémie qui sont quand même vraiment importants. Puis comment se comporte le centre de pédiatrie sociale 18 mois après la pandémie, tu sais, parce qu'on arrive un an et demi plus tard, les besoins ont été des besoins extrêmes au début d'ajustement pour tout le monde aussi, autant pour vous que pour les familles. Puis là, on est 18 mois plus tard. C'est quoi les besoins des familles maintenant? Puis c'est quoi les besoins du centre?
Pour le centre, premièrement, 18 mois plus tard, on est heureux et content d'être encore là, d'être encore ouvert. Tu sais, faut comprendre qu'on vit de subventions, de dons en grande partie. Il s'est installé une espèce d'instabilité dans le système économique au Québec, là, dans tout ce qui était, tous les gens qui étaient habitués de nous donner ou de nous supporter, tout du jour au lendemain, ils mettaient la clé dans la porte eux autres aussi. Fait que ça a changé beaucoup de choses pour nous. Il a fallu se renouveler là-dedans. Rapidement, le gouvernement nous a quand même jugé comme un service essentiel de première ligne. Fait que ça nous a permis de rester tout le temps ouvert, de garder l'équipe de travail en place aussi. On a eu une petite interruption là, de peut-être un mois et demi au début là, dans le début de la crise, où est-ce qu'on a dû congédier certaines personnes de façon temporaire, mais on est revenu rapidement à la charge. C'est sûr que 18 mois plus tard, il y a encore une inquiétude au niveau économique, hein. On entend un peu ce qui se passe dans la société. Je pense que ça va, pour certains, ça va très bien. Pour d'autres, ben, c'est chambranlant. Qu'est-ce que ça va donner les prochains mois, prochaines périodes? On a eu l'occasion de vivre comme bien des entreprises avec les subventions salariales d'urgence. On en a bénéficié, puis heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas réussi à s'en sortir. Mais tout ça va avoir une fin, une date de fin. Qu'est-ce que ce sera après? Je sais pas. Va falloir probablement, on a la capacité d'être très malléable. Je pense qu'on va s'adapter, là, comme on a su le faire. Fait que pour le centre, t'sais, l'équipe est en place, on a grossi l'équipe parce que les besoins sont grandissants. On continue de travailler très, très fort pour aller chercher le financement. Ce qu'on a dû faire, par exemple, au niveau de la clientèle, c'est de se réinventer dans notre façon de travailler. Les grands besoins qu'on voyait il y a un an et demi se retrouvaient souvent dans des clientèles, je dirais, 0, 10, 12 ans. T'sais, c'était chez le jeune enfant, beaucoup de besoin d'accompagnement 0-5 ans, besoin d'accompagnement au niveau scolaire, niveau primaire. Quand on est arrivé au niveau secondaire, c'était d'autres choses. Hein, t'sais, des enfants qui sont plus bien à la maison, qui sont en conflit avec leurs parents.
La consommation qui doit embarquer quand même assez rapidement.
Ben là, on est ailleurs depuis un an et demi. C'est des niveaux d'anxiété qui ont augmenté de façon faramineuse chez nos jeunes ados. J'ai jamais vu autant de prescriptions d'antidépresseurs chez des jeunes ados que ce qu'on fait actuellement. Des anxiolytiques chez des jeunes ados aussi. Beaucoup de dépendance à des substances, à des boissons énergisantes, alcool et autres, mais aussi aux jeux vidéo. On a jeux vidéo et écran. Là, je vais pas juste mettre le tort sur les jeux vidéo. Mais tu sais, des jeunes qui sont arrivés 13, 14, 15 heures par jour devant un écran, qui en oublient de manger, qui en oublient de dormir, qui ne vont plus à l'école, qui n'ont plus de vie sociale. Puis dès qu'ils veulent réintégrer un modèle un petit peu plus normalisé de voir des amis, de sortir, ça devient hyper anxiogène. Donc, ils sont pas capables, ils se rétractent puis ils retournent dans leur sous-sol, ouais, devant leur écran. C'est des problèmes qu'on n'avait pas vus avant, aussi empirés que ça, aussi amplifiés que ça. Puis là, on a eu espoir à la rentrée scolaire en présentiel en septembre pour que tout ça redevienne... redeviennent un peu dans un mode normal. Puis malheureusement, ça leur a été de courte durée. Là, on a des jeunes qui lâchent l'école, ils ont 13 ans, ils abandonnent, ils vont plus. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il manque de main-d'œuvre partout dans des domaines, pas nécessairement où est-ce qu'on a besoin de qualification. Je parle de la restauration rapide, je parle des magasins. Donc, nos jeunes, certains se sont trouvés des jobs à 13 ans parce qu'on les engage très tôt maintenant. Ce que ça fait, c'est que c'est intéressant d'avoir de l'argent dans les poches, donc on va plus à l'école. Puis on a des parents qui cautionnent les absence à l'école quand l'enfant va travailler. Ça fait que là, c'est d'autres défis. 13 ans, c'est pas normal d'arrêter l'école. T'sais, on le sait qu'au minimum, un secondaire 5, t'sais, sans vouloir... il y a des gens qui ont des carrières qui n'ont pas nécessairement de secondaire 5, mais c'est ce qu'on prône idéalement pour après ça avoir davantage d'opportunités qui s'ouvrent devant
soi. Puis c'est au-delà du diplôme. Là, t'sais, c'est aussi, oui, tout le cheminement éducatif, oui, social qui se fait aussi, oui, le sport... c'est la vie de collectivité aussi avec un ensemble de personnes, d'avoir des gangs d'amis, d'avoir...
De réalisation de soi, un petit, oui, tu le parles, le sport. Puis ça, on le voit beaucoup, hein, le phénomène chez les ados. Une chance qu'il y a du sport à l'école, parce que souvent, à l'adolescence, c'est là que ça décroche. Hein. Les amis sont, oui, plus importants, on va faire le party, on se lève pas le lendemain matin pour aller à notre entraînement. Puis tout d'un coup, ben là, on arrête de faire du sport quand on est à l'âge de l'adolescence. Alors que l'école va amener cette espèce d'équilibre-là de « on bouge », on essaie de faire respecter un rythme de vie pseudo-normal. Hein. C'est-à-dire, on se lève le matin, on va à l'école le jour, puis le soir, on se couche à une heure décente. On voit des amis, on apprend des choses, on est stimulé. Mais si on arrête l'école à 13 ans, ben tout ça tombe. Puis on focus soit sur un emploi ou soit sur justement s'isoler dans son sous-sol. Fait que là, c'est en train d'emmener un autre défi chez les ados. Fait que c'est là qu'on a fait, nous, attends un peu, là, faut se réinventer dans notre façon d'intervenir. On n'intervient pas avec un ado comme on intervient avec un enfant de 5 ans, ni avec un adulte, hein, tu sais, de s'asseoir dans un bureau autour d'une petite table puis parler un à un, là, c'est pas ce qui est super attrayant pour eux. Donc, on a réinventé un peu notre façon d'intervenir auprès d'eux en passant par de l'activité sportive. Donc, toi, viens-t'en, je t'emmène faire du skate puis on va jaser. Puis on développe des liens avec eux puis ça nous permet de travailler des choses avec eux. Ça reste fragile. Faut mobiliser, faut sensibiliser. Par contre, si on est capable de les intéresser à quelque chose, bon, je donne le skate en exemple parce que j'ai un jeune qui avait jamais fait de skate. L'intervenant est allé avec lui. Il s'est développé une passion pour le skate. Au départ, il parlait de vouloir s'acheter la nouvelle. Je connais rien à un jeu vidéo, fait que je dirais peut-être pas la bonne chose là. Je pense que c'était la nouvelle PS4 ou 5, là, je ne sais pas trop. Finalement, le jeune a changé son orientation pour vouloir s'acheter un skate ou un longboard. Fait que, oui, c'était favorable. T'sais, on aime bien mieux qu'il aille dehors puis que ça lui permette
de socialiser. En plus d'avoir une équipe multidisciplinaire, là, c'est
quand même... On est créatifs. Mais tu sais, chez nous, le thing outside the box, là, ben, c'est chez nous. Là, il n'y a pas de protocole qui nous dit qu'on devrait faire ça, dans tel ordre. On va s'adapter à la personne qui est devant nous selon son intérêt, selon ses désirs, ses goûts, puis on va focusser là-dessus. Fait que la malléabilité qu'on a permet de rejoindre ces jeunes-là, chose qu'un réseau ne réussit pas parce que c'est davantage encadré, c'est davantage contrôlé, c'est un laps de temps qui est très déterminé aussi. Chez nous, moi, il y a une date d'ouverture de dossier, mais il n'y a pas de date de fin de dossier. Là. Si l'enfant a besoin de 0 à 18 ans, on va être là de 0 à 18 ans. Là. C'est une trajectoire de vie.
Vous n'êtes pas obligé de vous entêter sur un modèle où, comme tu dis, de dire, regarde, nous, les rencontres, c'est dans une salle de conférence, ça va être ça, puis ça a toujours été ça. Là.
On va dehors, on va complètement marcher, ailleurs,
mais ça amène d'autres défis, on s'entête.
Ça amène d'autres défis, mais j'ai quand même une équipe qui aime ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on va sur le bord de la piste cyclable, on va au skatepark, on va au panier de basket du quartier à côté, puis quand c'est des plus jeunes, on va au parc, on se balance avec l'enfant, on jase avec l'enfant, puis ça devient porteur, puis en même temps, ça montre aux parents que c'est possible de le faire. Les parents, des fois, pensent que de sortir faire une activité avec son enfant, c'est un gros défi, puis ça prend un équipement, puis ça prend ci, puis ça prend ça, mais pas nécessairement. Va juste prendre une marche sur la piste cyclable, tu vas voir à quel point ça peut permettre des discussions avec
ton
enfant.
Mais c'est l'intérêt. L'intérêt ou le désintéressement, puis dans l'exemple que tu donnes des ados, c'est souvent ça. Le défi, tu sais, jeunes, comme tu dis, leur cerveau est malléable, puis jusqu'à 8 ans, fait que souvent, sont plus soldats, ou tu sais, ils embarquent, ou ils sentent la mission rapidement, tandis que les jeunes qui avaient peut-être déjà cette nature-là d'ados, de plus comme, genre, descendre ou s'effoirer ou tomber ces jeux vidéo, s'ils l'ont fait pendant un an, ou tu sais, c'est sans dire que c'était cautionné, mais je dis ça a été un peu leur réalité pendant un an. Oui. Ben, le mauvais prix, il est pris. Là,
ben, on l'a en soi cautionné. Quand l'école est en ligne, puis tout se passe en ligne, tu sais, moi...
Puis qu'avant pandémie, on disait que les tablettes, les écrans, c'était dangereux, que en moment de pandémie, c'est la meilleure invention, c'est les tablettes, là.
Tu sais, moi, je l'ai vu, là. J'ai des enfants qui sont au secondaire, puis début de pandémie, secondaire 1, puis je reçois un message, Maude, faudrait créer un compte Facebook à votre enfant parce qu'on va tous mettre les entraînements sur Facebook. Mais je dis, attends, il est en secondaire 1, je veux pas créer un compte Facebook à mon enfant.
Qui va venir autour de c'est ça, ben oui.
Par la bande, par la force des choses, ben tu finis par embarquer là-dedans parce que tu dis, je vais-tu brimer mon enfant de recevoir ses entraînements? Mais là, il faut que tu assures une certaine vigilance. Puis est-ce que tout le monde est apte à assurer cette vigilance-là tout le temps?
Puis qui ont les compétences, les connaissances, puis qui vont vouloir mettre l'effort pour le faire. Parce que, tu sais, on peut retrouver le même enfant dans un milieu vulnérable où ce que les parents n'ont pas d'intérêt nécessairement à ça.
Si on laisse aller, ben là, on se ramasse avec des TikTok qui sont peut-être pas nécessairement adéquats. Tu te ramasses avec des échanges de j'accepte une personne que je connais pas puis ça se solde autrement. Fait que ça l'a emmené des grands défis. Ça l'a emmené des grands défis pour tout le monde, mais encore plus chez des familles où, comme tu dis, s'ils connaissent pas ça, comment on peut en arriver à mettre des contrôles dans Facebook quand on connaît pas comment le faire? Tu sais, quand on connaît pas ce langage-là, ça devient des gros défis là pour eux.
Puis écoutez, premier segment de notre émission, c'est donc important, puis on peut pas mettre sur pause nos discussions parce que c'est des sujets qui sont vraiment importants, autant pour les enfants que pour les familles, puis pour les gens qui n'ont réellement de besoin aussi. Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis a besoin de vous. C'est quand même assez simple, là. Allez sur le site, allez dans la section dons, faites un don, que ce soit 5, 10, 15, 20 $ 1000 $ On souhaite des 5000 $ plus régulièrement, mais allez donner un don. Puis même si c'est juste 10$, même si c'est juste 20$, ben c'est combien de pourcentage qui est remis directement à l'enfant?
À nous autres, actuellement, c'est 93%. Il y a 7% de frais administratifs, là, ce qui est très, très bas là, pour une entreprise comme la nôtre, parce qu'on a des bénévoles. Puis il n'y a pas de petits dons. Peu importe, tu nommes des montants, mais il n'y a pas de petits dons. Nous autres, tout est le bienvenu. Puis il faut savoir que cet argent-là sert justement à faire rouler la mission du Centre de pédiatrie sociale, dont notamment s'occuper des enfants là, en situation de vulnérabilité.
Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. On part en pause pour quelques secondes parce qu'on en va avoir un autre gros segment. Restez avec nous, on revient tout de suite après.
Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi? Les employeurs sont activement à la recherche de diplômés dans nos programmes, dont retraitement des dispositifs médicaux, robotique industrielle et conception mécanique.
Pour plus d'informations sur nos attestations d'études collégiales, offertes en soirée ou à temps partiel, consultez la section formation continue du cégeplevis.ca. Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, inscrivez-vous dès maintenant.
Salut, c'est Eduardo. Mon papa, il vend des bûches de Noël. Ça s'appelle la bûche à marteau. C'est la meilleure bûche au monde. En tout cas, c'est ça qu'il dit.
Salut, c'est Marteau. La bûche à marteau arrive cette semaine dans toutes les épiceries. Va chercher ta bûche à marteau au fudge et whisky à l'érable.
Je veux de la bûche à marteau.
Va chercher la bûche à marteau chez Maxi, IGA, Provigo et Metro, partout à Québec, Lévis puis la Beauce.
La bûche à marteau, c'est la meilleure au monde. Oh!
Dimanche 15h, nous vous faisons revivre l'époque CFLS avec Alain Perron à la co-animation du bingo. La meilleure musique des années 70 et 80, habillage sonore exclusif et plus encore, 3000$ à gagner et bien d'autres surprises. Le bingo spécial CFLS, un voyage dans le temps qui peut s'avérer très payant. Le bingo à CGMD, l'activité idéale pour le temps des fêtes. 969FM.ca pour les points de vente.
La fromagerie Victoria est votre solution dans votre planification pour vos repas des fêtes. Avec nos trois sortes de tartes, nos pâtés parfaits, notre gamme de fromages fins, on est incontournable. Et y a pas juste ça, notre lasagne maison, mamma mia! Pensez à nos cartes cadeaux aussi. Entre autres, les fromageries Victoria, pour les fêtes, c'est ça.
Ah! Oh,
oh, oh. Ah, oui, oui, c'est beau.
Talk, rock et hip-hop.
On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-nous directement sur notre site web jeanfrançoismorin.ca ou sur mon cellulaire 418-801-8011. Toujours avec mon acolyte Kevin de Plan de Match Renault. Tu veux-tu faire un petit Q-line?
Ben, une fois que vous avez acheté avec Jeff ou quand vous êtes en processus d'achat, venez me voir si vous avez des rénovations, des plans d'optimisation, des améliorations à faire sur votre bâtiment. Je vais vous aider à budgéter, planifier, organiser tout ça.
Puis écoute, Kevin, aujourd'hui, on reçoit Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Pour moi, c'est une cause qui nous tient à cœur. On est impliqué avec vous depuis 2 ans. La pandémie frappe fort, autant pour les organismes comme le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Les enfants ont besoin de vous. Juste avant la pub, on disait « faites un don ». On va débuter ce segment-là par justement « faites un don ». C'est important pour le centre. C'est important surtout pour les familles puis les enfants. C'est à eux, 93% qui est remis directement en service aux enfants. C'est quand même pas rien. La pandémie amène son lot de défis, amène son lot de problématiques, amène aussi des entreprises qui se questionnent sur leur rentabilité, qui se questionnent sur l'avenir de l'entreprise aussi, qui étaient des grands donateurs pour le centre, qui ont vécu une pandémie où ce qu'eux aussi, monétairement, ont dû mettre les dons sur pause. Mais comment que le centre de pédiatrie a réussi à se réinventer parce que vous avez pas eu le choix de vous réinventer là.
Ben il fallait continuer parce qu'on avait l'offre qui est la demande qui était là. Nous fallait être capable d'offrir le service. Ça a été un gros branle-bas de combat parce que quand on a annoncé les fermetures en mars 2020. On était à 2 semaines de tenir notre grand événement bénéfice du mois d'avril. Donc il a fallu annuler tout ça. C'est un événement qui nous rapporte habituellement chaque année, je dirais une moyenne de 75 000 $. Fait que là c'était un gros montant sur lequel on mettait une croix. On s'est tourné rapidement. Il y avait une mode du virtuel. Fait qu'on a fait un peu comme tout le monde. On s'est retourné vers du virtuel pour en arriver à faire des encans bénéfices de façon virtuelle. Ou est-ce que des compagnies qui sont restées en opération puis qui vont bien nous offrent des lots, nous offrent des produits qui... Bon, on a misé beaucoup sur les produits du terroir, les produits québécois. Donc, les gens nous offrent ça puis nous, on les vend sur une plateforme d'encan en ligne où est-ce que cet argent-là est totalement redonné là en service aux enfants. Fait que ça a été une des directions qu'on a pris. On l'a répété, là, on l'a fait au mois de mai. Là, on a l'encan de Noël qui débute la semaine prochaine. C'est une belle façon d'aller chercher ses cadeaux de Noël rapidement, facilement. Tout est bien emballé, tout est beau. Pas besoin d'aller dans la cohue des centres d'achat.
Tout est disponible déjà.
Tout est disponible
bon.
Déjà, ouais, effectivement.
C'est pas de
déo. Ils sont en train d'avoir des pénuries partout cette année. Sinon, on s'est tourné aussi vers ce qu'on appelle les boîtes barbecue. Ça nous a demandé énormément de travail, mais ça a été des super succès. En fait, on a des restaurateurs qui sont restés à pied d'œuvre, hein, qui se sont tournés beaucoup vers ce qu'on appelle le take-out ou la livraison. On a profité de ce momentum-là pour les approcher, leur demander des produits, des denrées. On a acheté des boîtes, on a mis ça dans les boîtes pour concocter des beaux repas barbecue qu'on a fait à la fête des Pères, qu'on a fait aussi à l'Action de grâce.
C'était succulent.
C'était fou, hein? Puis ça nous permettait de connaître des produits, même des producteurs qu'on connaîtrait pas autrement, oui. Tu sais, si on va pas vraiment dans ce resto-là. Il y avait une belle diversité de choses aussi, puis ça a été hyper populaire. Les deux ont été sold out, là. On en a manqué pour les deux. Je pense que c'était 200 boîtes à l'édition Fête des Pères, puis c'était 300 à l'Action de grâce, puis tout ça a trouvé preneur. Ça a été une super activité. Beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, mais tellement gratifiant parce que les producteurs là, qui décident de donner 300 produits d'une telle affaire là, qui ont fabriqué avec cœur et avec amour, ben pour eux, c'est le fun de le faire découvrir à quelqu'un. Fait que ça a été super intéressant comme formule. Là, on souhaite revenir à une formule vraiment présentielle. On va se croiser les doigts pour que ça persiste. Mais ça a été beaucoup là, dans la dernière année et demie, là, les événements virtuels, c'est sûr, les fameux dons qu'on peut faire à tous les jours sur les plateformes de dons en ligne avec émissions de reçus de charité. La période de la guignolée s'en vient, on pourra peut-être en parler.
Le 11 décembre, effectivement.
11 décembre, puis cette année, on se croise les doigts, mais en date d'aujourd'hui, on l'a fait en version comme vous l'avez connu dans les 10 dernières années. C'est notre version, c'est notre 12e année, donc au coin des rues, le 11 décembre et le dimanche 12 décembre également. Dans le Grand Livio complet, il va y avoir 300 bénévoles qui vont être un petit peu partout là, à recueillir vos dons à l'auto. On a aussi dans la cour des Galeries Chagnon encore cette année, ce qu'on a fait l'année passée, le service de dons à l'auto. On a réalisé qu'il y a des gens qui doivent être stressés sur le coin de la rue pour sortir sa petite monnaie de sa poche puis la mettre dans la tirelire. C'est comme trop, là, tu sais, puis la personne en arrière klaxonne, la lumière change, ils se sentent tout croche là-dedans. C'est qu'on a quand même gardé la formule dons à l'auto, puis c'est tellement le fun parce que les gens se préparent à l'avance, viennent nous voir, puis ça leur permet de nous jaser. Puis,
oui,
et merci d'être là, puis tu sais, c'est donc bien le fun, puis on va continuer de vous supporter. Puis ça, c'est précieux d'avoir ces commentaires-là. Fait que ça, on maintient cette formule-là dans le stationnement des Galeries Chagnon, là, dans le coin de la caisse de Lévis, si on veut, là, ou le Ashton, je pense. C'est ce restaurant-là qui est dans le coin. Donc ça, vous viendrez nous voir le 11 décembre. On va être là toute la journée aussi avec un petit peu d'animation là, dans la mesure du respect de la santé publique. Mais tu sais, il va y avoir des mascottes, il va y avoir des cafés, il va y avoir tout
puis
ça.
Puis vous prenez, en termes de dons, vous prenez un peu de...
Surtout de l'argent. C'est intéressant que tu amènes cette question-là, Kevin, parce que ce propos-là, c'est que dans la dernière année et demie, toutes les ressourceries ont fermé. Sauf nous, c'est qu'on a été envahis de dons matériels.
Des jouets,
vêtements, tout ça. C'est sûr qu'on en redonne, puis ça, c'est ce qu'on fait à l'année. Par contre, pour la guignolée, on demande aux gens de se concentrer sur l'argent. La façon dont fonctionne le financement pédiatrie sociale, c'est simple, c'est que on prend le budget, on le sépare en trois. Il y a un tiers qui arrive à peu près un tiers qui arrive du gouvernement, qui est en projet pilote jusqu'en 2023. Le reste du deux tiers, faut aller le chercher par des événements comme je viens de parler, les boîtes barbecue, l'encan et tout ça. La guignolée en fait partie, bien sûr. Et puis, sinon, l'autre portion, l'autre tiers appartient à des subventions qu'on va chercher. Le problème avec les subventions qu'on va chercher ou avec les grands donateurs, c'est que souvent, ils veulent que leur don, puis c'est tout à fait correct, là, ils veulent que leur don soit associé à un projet en particulier. Donc, nous, ça nous amène à créer des nouveaux projets, des nouveaux services, ce qui est parfait. Cependant, nos activités de la vie courante de tous les jours n'est pas assumé financièrement. Donc, un événement comme la guignolée qui nous permet, l'année passée, c'était 152 000, 155 000, cet argent-là va permettre de payer mes intervenants qui sont là à tous les jours pour maintenir la mission en vie, alors que les subventions qu'on va chercher vont permettre de développer des nouveaux services. Fait que c'est pour ça que, dans le temps de la guignolée, oui, on prend des cadeaux neufs parce qu'on en donne. On a quand même 800 quelques enfants inscrits sur notre liste, 450-500 enfants plus actifs à qui on offre des cadeaux de Noël. On a l'arbre enchanté qui nous en offre, on a des chevaliers de colons, on a des regroupements aussi qui vont dire, ben nous, on se mobilise, on achète 30 cadeaux neufs que vous remettrez à 30 enfants. Mais les dons monétaires, la journée de la guignolée particulièrement, c'est précieux pour nous parce que ça nous permet de continuer nos activités.
Ah oui, c'est ça. En fait, toutes les denrées ou les cadeaux, ça permet pas de de souvenirs de à tous les besoins.
Non,
mais
c'est ça. C'est des belles gâteries pour Noël parce que les enfants le méritent.
Mais souvent, c'est l'image qu'on a aussi de contribuer ou d'aider pour Noël, mais on s'entend qu'il y a le avant, il y a le après Noël, il y a les 11 autres mois de l'année où, à un moment donné, il ne faut pas juste remettre des cadeaux aux gens.
Non, parce que le cadeau fait du bien, mais est-ce que le cadeau règle tout? Je pense que non.
Exact. Puis, tu sais, ça ne paye pas l'intervenant non plus. Puis, il y a bien des affaires qui ça comble pas non plus. Puis, une des choses qu'on avait fait l'année passée à l'Halloween, c'est que j'avais mis un bac à la maison, puis on a fait un groupe de quartier, puis on a ramassé, je pense, 6 ou 8 bacs là, de jouets pour les familles, etc. Puis, tu sais, écoute, on a eu même des jeux vidéo, là. Fait que, tu sais, les gens...
Les consoles,
Fait que, tu sais, les gens, ils ont vraiment donné des beaux jeux, là. C'était pas juste, ah, ben ça, c'est plus bon, on le donne aux enfants. C'était vraiment des jeux dédiés pour les enfants, des livres. Ça a été vraiment cool comme activité. Puis, je tiens à remercier vraiment tout notre quartier aussi. Puis, est-ce que, en temps de pandémie, vous avez réussi à maintenir des ressources financières suffisantes pour maintenir sensiblement l'entièreté des services.
Oui. On a travaillé fort, puis on est allé chercher un peu, comme je disais tout à l'heure, des subventions pour des projets, tu sais, notamment là, les projets par la ce qu'on appelle thérapie par plus sportive, là, par les activités. Bon, ça, on a réussi à aller chercher un petit peu de fonds qui nous ont permis d'aller chercher des ressources là, pour le mettre en application. Nos événements bénéfices qu'on a fait virtuels nous ont aussi permis d'assumer le roulement de tout ça. Ça va bien pour l'instant financièrement. T'sais, pour cette année, ça a bien été. La prochaine année, on a un petit peu peur parce que là, comme on disait tout à l'heure, des grands donateurs ont changé un peu leur façon de donner, ont changé leur façon. Il y a des compagnies qui ont dû congédier des gens, il y a des compagnies qui ont dû arrêter de payer des locaux aussi, qui ont dû... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Moi, je suis fascinée. Tu sais, dans le temps de la guignolée, on va porter des tirelires dans plusieurs commerces. On a fait la liste récemment. J'étais étonnée de voir qu'il y en a une quantité phénoménale qui ont mis la clé dans la porte. C'est triste, là, c'est vraiment triste, mais c'était des gens qui s'impliquaient auprès de nous. Puis, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être des 100 000 ou des 150 000 pour s'impliquer. Ça peut être un 1 000 $ à chaque année. Il y a des entreprises qui nous donnaient toujours un 5 000 $ à chaque année. Cette année, ils ont réduit à 1 000 parce qu'il y a moins de roulement.
Mais eux autres aussi vivent une certaine incertitude.
Ça reste que la contribution sociale est super importante.
Totalement.
Mais la survie de l'entreprise...
Ben, passe avant tout, c'est ça. Puis, tu sais, moi, les entrepreneurs me disent, tu sais, Maude, on reçoit plus de matériel, on est en rupture de stock pour tout, donc on peut plus fabriquer, on peut plus vendre. Ouais. On a du délai partout, on a dû congédier des gens parce que la chaîne de montage ne roule plus comme elle roulait. Donc, ils ont moins de revenus aussi, ces gens-là. Ouais. Donc, je pense vraiment qu'il y a une crise économique qui s'en vient. En tout cas, on en entend de plus en plus parler. La prochaine année nous inquiète un petit peu, tu sais, au niveau financier. Il va falloir user de bien des stratégies différentes là, pour être capable de s'en sortir. T'sais, j'ai bon espoir. On est assez créatifs. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Je parle au féminin parce qu'on est une gang de filles qui s'occupe de ça. Mais je pense qu'on devrait bien s'en sortir, mais ça reste inquiétant là, au niveau de la mission. Puis c'est sûr qu'en même temps, tout le monde se rend compte que dans le réseau, ça va pas bien. On a besoin d'apporter du support. Les organismes de proximité ont besoin de supporter notre réseau de la santé et des services sociaux qui est un petit peu défaillant à ce moment-ci. On espère que ça va amener une sympathie, mais c'est ça. Ça demeure un peu fragile.
Peut-être que ça doit être d'autres ou des nouveaux contributeurs qui s'ajoutent à la cause parce qu'eux ont été capables de peut-être changer leur activité économique parce que là, ça fait maintenant justement 1 an et demi, 2 ans, fait que se sont réorientés. On sait, il y en a certains que ça a été un boom économique, en fait, la pandémie.
Il y en a qui se sont enrichis. Puis il y en a qui nous ont découverts aussi. Je veux pas qu'on aborde ce sujet-là de long en large. Je pense qu'il est assez médiatisé, mais ce qui s'est passé avec la petite fillette de Granby, ça l'a amené chez les gens une conscientisation qu'il y a des besoins dans la société, qu'il y a des besoins chez les familles. On le disait tantôt, à Livy, on a l'impression que tout va bien, mais quand tu ouvres les portes de ces murs-là, tu réalises à quel point c'est fragile. Puis il y a des gens qui nous ont découvert par, justement, la médiatisation là, de ce qui s'est passé à Granby. Puis on dit, oh mon Dieu, c'est ça vos familles, c'est ça que vous faites, c'est comme ça que vous les accompagnez. Puis il y a des gens qui ont déjà, tu sais, il y a des donateurs qui nous ont appelés, qui nous ont dit, moi, je veux faire une grosse épicerie pour une famille dans le temps de Noël. jumelles. Fait qu'eux autres, ils ont un budget de 500 $. On les jumelle avec une famille. Il y a un gentil donateur qui a habillé 4 enfants de la tête aux pieds avec les habits de neige, les bottes. Ça s'est finalisé hier. Là, on a sélectionné 4 enfants qui ont eu accès à des habits neufs, des vêtements neufs. Fait que ça se traduit comme ça par des gens, un peu monsieur, madame, tout le monde, qui ont décidé de redonner puis de s'investir parce qu'ils nous ont découvert pendant la pandémie.
Puis c'est pas toujours non plus des besoins monétaires, là. T'sais, c'est aussi important d'avoir des dons comme ça puis d'avoir un manteau d'hiver chaud, etc. Là, puis, tu sais, c'est le moment, moi, où je me mets à brailler puis que je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, tu nous as parlé aussi au niveau des entreprises, comment qui ont évolué dans tout ça. Puis, j'aimerais ça qu'on aborde le sujet de la philanthropie dans les entreprises. Est-ce que, tu sais, aux États-Unis, c'est très inculqué. On va à l'université, on devient un donateur à vie quasiment à l'université, etc. Puis, on n'a pas cette culture-là au Québec. Puis, comment que vous le vivez, vous, la philanthropie avec les... Tu sais, c'est sûr que vous le vivez à tous les jours parce que toutes les entreprises...
Agissent en philanthropie quand ils s'impliquent auprès de nous. Là.
Oui, exact.
Tout à fait. Mais, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'ai présenté dans un sommet de la philanthropie à Montréal, puis j'étais avec quelqu'un d'une grosse entreprise philanthropique qui est en face de moi, puis je lui disais... T'sais, tout gentiment, il y a deux modes de philanthropie. Il y a deux façons de faire de la philanthropie. Il y a celui qui a les moyens de donner, c'est un philanthrope, puis lui va donner. Mais faire de la philanthropie, c'est aussi un organisme comme moi qui va devoir aller chercher des dons. Il y a deux façons de voir les choses. Fait que souvent, on va mettre sur la sellette les grands donateurs. Hein? Un tel, c'est un grand donateur pour telle cause ou telle chose. Par contre, la philanthropie ne veut pas juste dire donner de l'argent. Veut dire, hey, on s'implique, on s'investit.
On organise,
on vous supporte là-dedans. Vous avez un événement bénéfice. Crime, moi, je connais quelqu'un qui fait telle affaire. Laisse-moi le solliciter pour toi, puis on va lui demander de contribuer. Pas nécessairement financièrement, mais par sa présence ou en gratuité ou en, peu importe, il y a différentes façons de faire. Puis souvent, les gens vont connaître la philanthropie de donner de l'argent. Ouais. Fait que le mentorat d'affaires, c'est de la philanthropie. D'avoir un guide, un coach auprès de moi, par exemple, qui dirige une entreprise puis qui me guide dans les meilleures pratiques, c'est de la philanthropie. Fait que c'est ça qu'on essaie de vendre. Fait qu'il y a toujours deux façons de parler de la philanthropie, ouais, à mon humble avis. Là. T'sais, ça, c'est Maud Julien qui le dit. Là. Est-ce que c'est ça partout? Mais
c'est vrai. C'est vrai, c'est une chaîne, en fait.
Oui,
c'est comme une chaîne de valeur parce que vous faites redescendre l'argent de ces grands donateurs-là, mais si vous ne l'amenez pas aux bonnes personnes de la bonne façon, puis tu es bien épaulé, puis tu sais...
Ben, c'est ça.
Ça peut mal servir.
Ben, effectivement. Puis on veut pas que ça serve mal. Puis le donateur veut que son argent, tu sais, on le nommait à 93 sous, est redonné en service aux enfants. Ben, tu sais, on a tout eu conscience dans les années antérieures que telle ou telle cause avait une charge administrative totalement faramineuse. Puis ça, c'est fâchant pour un donateur qui pense que son dollar qu'il donne va être redonné en service, ouais, et non pas qu'il va en avoir la moitié qui va partir en gestion ou en administration, tu sais, peu importe. J'ai hâte de voir parce que on va parler de politique rapidement, mais Bruno Marchand, qui a été élu à la mairie de Québec, qui est quand même l'ancien PDG de Centraide. C'est un gars que je connais bien. Justement, on était au sommet de la philanthropie ensemble, Bruno et moi. J'ai hâte de voir quelle tournure ça va prendre parce que t'as raison, Jean-François. Aux États-Unis, puis je dirais même au Canada anglais, la philanthropie est très inculquée chez les gens. Tu sais, ça fait partie de notre ADN de dire on s'implique, on donne. Nous, on a des compagnies avec qui on transige, qui ont pignon sur rue à Lévis, mais qui ont des maisons-mères en Ontario ou en Alberta ou peu importe. Puis c'est fascinant de voir comment ces gens-là, à l'année longue, nous sollicitent en nous disant « Hey, moi, j'ai une plateforme de donation, qui, par exemple, que je partage à tous mes employés, puis je les incite à chaque paye de donner un certain montant. Ouais. Voulez-vous vous inscrire? » Mais c'est tout le temps des compagnies qui ont pignon sur rue ailleurs au Canada ou aux
c'est
États-Unis.
Naturel pour
oui, au Québec, c'est plus difficile. Ça va être ponctuel, ça va être des dons qu'on va à une année, ça va bien financièrement dans mon entreprise, je vais prendre de l'argent puis je vais la distribuer. D'autres compagnies l'ont vraiment intégré. T'sais, on a des partenaires, nous, qui sont là depuis 12 ans avec nous puis qui sont toujours au rendez-vous. Mais chez Monsieur, Madame, tout le monde, c'est un petit peu plus difficile.
Puis tu vois, notre équipe, nous, on avait impliqué ça depuis plusieurs années. Là, en 2019, on avait donné 10 000 $. On donnait 1%, même plus qu'un pour cent de notre chiffre d'affaires à un organisme. L'année passée, on vous avait fait un don de 10 000 $. Cette année, on prévoit 45 000 $ parce qu'on a eu l'aide de Jean-Philippe Jalbert qui nous a aidés avec le tournoi de golf, qui lui avait donné 15 000 avec les dons qu'il avait ramassés. Ouais. Tous les bénéfices ont été remis au centre de pédiatrie. Puis à la soirée, Marie-Ève était avec nous, puis on a décidé de donner, de doubler le montant là-bas. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. Le tournoi de golf a tombé de 15 à 30 000 $. Puis nous, on avait pris un engagement avec vous pour 15 000 $ qu'on va honorer aussi. Fait que, tu sais, je suis quand même très fier cette année de dire que notre équipe, va avoir contribué à remettre 45 000 au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Pour nous, c'est vraiment important.
Puis avec pour nous, c'est des sommes monstrueuses qui nous permettent tellement de faire du chemin, là. C'est impressionnant, là.
Puis, maintenant qu'on est avec l'agence Nous vendons votre maison, ben, c'est inculqué dans l'agence, ça, où ce qu'on donne 250 $ par transaction. L'année prochaine, on prévoit d'en faire 400. Fait que, tu sais, veux pas, on va avoir un montant de 100 000 $ à remettre à un organisme l'année prochaine. Puis, ça vient réaliser un de mes Big Harry Goals, là, qu'on vient parler, puis tout ça. Ben moi, ça faisait partie de ma vision que j'aimerais donner 100 000 par année avec mes différentes entreprises. Ben on arrive à ça, peut-être même l'année prochaine. Tu sais, moi, je voyais ça dans un projet de 5 à 10 ans. Ben Christy, on va l'avoir réalisé dans même pas 2 ans. Je trouve ça fou. Puis, c'est une implication qui est faite aussi par l'agence et par les équipes immobilières. Fait que c'est vraiment gratifiant aussi pour nous. Puis, moi, je pense que chacune des entreprises, tu sais, se doit de l'impliquer, d'en discuter avec leurs employés, puis de faire en sorte qu'on soit en mesure de pouvoir offrir quelques dons. Puis, tu sais, nous, ça va autant du courtier immobilier que le personnel administratif qui contribue aux activités, qui contribue à faire rayonner l'organisme là, à différents niveaux. Fait que c'est vraiment important.
Ça part de la business. Tu sais, ça part en fait des administrateurs. Tu sais, je pense, entre autres, Desjardins, qui est un grand
donateur.
Tu sais, moi, j'ai travaillé 2 ans là, mais t'arrives dans la machine puis c'est automatique.
C'est inculqué.
Donc, il ne faut pas t'attendre nécessairement que tes gens se mobilisent. Il faut que ça vienne peut-être soit des dirigeants ou de ceux qui gèrent ça. Puis effectivement.
Les gens sont fiers, hein. Puis tu sais, c'est juste une question des fois que ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été mis en application, etc.
Ça prend un cadre parce que c'est pas, comme tu dis, je pense que c'est pas naturel.
Chez les Québécois. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tout le monde ne réalise pas l'ampleur des besoins autour de nous.
Non, c'est ça, on le voit pas.
Tant que t'es pas conscient qu'il y a des besoins, comment veux-tu essayer de donner? Puis tu sais, il y a des gens qui nous le disent, ça fait des années que je cherche comment je pourrais m'impliquer ou m'investir, puis je le sais pas trop par où passer. Tu sais, il y a des études d'ailleurs dans le monde puis aux États-Unis qui démontrent que justement, disons que moi je dois renouveler ma prime d'assurance pour dire quelque chose, je vais me diriger vers une compagnie qui supporte une cause qui fait du sens pour moi. Puis ça, on le voit de plus en plus. Oui. Le Québec essaie de le faire. Tu sais, quand on voit là Norton Rose qui met ses bureaux tout en rose parce que c'est le mois du cancer du sein, ou le Movember, où est-ce que tout le monde embarque dans l'entreprise. Puis, tu sais, c'est ça, là, on le voit de plus en plus, mais chez les individus, c'est pas encore ancré. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais oui, ça passe par des dirigeants d'entreprise qui, eux autres, vont nommer. Puis, tous les gens, ce qu'ils nous disent, au même titre que vous avez fait la guignolée dans les années antérieures, hey, ça fait donc bien du bien de faire ça, c'est donc bien gratifiant, c'est donc bien le fun de savoir qu'on contribue puis qu'on aide d'une certaine façon.
Mais comme tu dis, c'est des événements ponctuels souvent pour les gens. Tu sais, c'est la guignolée. C'est très fort, on le sait. Ou malheureusement, comme tu as dit tantôt, des fois, c'est des événements catastrophes qui vont mettre le spotlight sur des besoins. Sauf que là, quand ça passe par le citoyen corporatif ou la business, c'est récurrent. Ça devient. Puis, tu sais, il y a l'esprit de communauté. Tu faisais tantôt le parallèle avec les Américains, le fait qu'ils contribuent au niveau du scolaire. Ben, tu sais, c'est ça aussi. C'est qu'il y a je pense qu'il y a un esprit de communauté plus naturel, autant au niveau de l'école, de la famille,
du village, qu'on
a peut-être perdu. Fait que ça, probablement que la contribution
sociale
vient. Pour
bâtir le village, il faut le consolider, notre village.
C'est bon, ça.
Maud Julien, c'est un plaisir de te recevoir. Pour vrai, j'ai des frissons à toutes les fois, j'ai des larmes à toutes les fois. Ça me touche énormément, la cause. Puis tout l'engouement que vous mettez aussi pour donner des ressources aux enfants, c'est vraiment important. On le sait, on peut vous rejoindre sur le site du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Puis en passant sur le site, allez directement dans la section dons. Si jamais les gens ont des intérêts à discuter directement avec vous, de quelle façon qu'ils peuvent communiquer autre que le site Internet?
Juste en appelant. Appelez-nous, puis il y a toute une équipe qui est là qui va pouvoir vous répondre. Ça va vraiment nous faire plaisir, mais c'est ça. Sinon, il y a aussi une plateforme, là, une place sur le site Internet où vous pouvez juste nous écrire, des fois de parler, c'est plus difficile. Juste un petit message, puis on retourne les appels avec plaisir, que ce soit pour des besoins, parce que vous êtes une famille qui est dans cette situation-là, puis que vous pensez qu'on peut faire quelque chose, ou que ce soit pour échanger avec nous parce que vous pensez que vous pouvez faire une différence dans l'entreprise, ça va nous faire plaisir là, de vous écouter.
Puis ceux qui nous entendent, qui sont géographiquement pas à Lévis, c'est-tu des services qui sont centralisés à Lévis, ou avez-vous des partenaires
C'est un bon point, on n'a pas parlé dans l'historique. Hein? En fait, maintenant, il y a 43 centres de pédiatrie partout au Québec. Okay. Chaque centre de pédiatrie est autonome dans sa structure, là, de gouvernance, de financement et tout. Oui. Mais c'est vraiment partout au Québec où est-ce qu'on peut retrouver les services de pédiatrie sociale. Donc, peu importe la région, que ce soit la Gaspésie, la Beauce, je veux dire, Appalaches, Montréal, Gatineau, il y en a vraiment en Estrie, il y en a vraiment partout.
Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi de ça, c'est qu'ils ont mis une conformité à l'intérieur aussi des centres pour s'assurer que les services, le besoin, l'enfant soit
bien pris
en charge de la même façon.
On veut s'assurer que la mission est bien respectée, hein, puis que tu sais le ce qu'on va offrir comme service en cohésion avec les valeurs de la pédiatrie sociale, puis ça, ben ça sécurise aussi les gens là dans cette forme de pratique là.
Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez des joyeuses fêtes, mais surtout, on vous attend le 11 décembre. Préparez votre change. Sinon, venez aux Galeries Chagnon, remettre vos dons. C'est super important. Puis on essaie-tu de rajouter une couple de mille de l'année passée, 155 000. Pourquoi qu'on n'irait pas à 175 cette année?
Parfait.
Let's go.
Ouais, let's go. On donne le 11 décembre prochain pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Bonne journée tout le monde.
Merci.
Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres.
Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine.
L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace lounge, voiturier, restaurant réputé,
Il Mato,
tout pour vos conférences. Hôtel71.ca.
Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies, l'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservé dans l'un de nos 3 restos, le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
Dimanche 15h, nous vous faisons revivre l'époque CFLS avec Alain Perron à la co-animation du bingo. La meilleure musique des années 70 et 80. Habillage sonore exclusif et plus encore. 3000$ à gagner et bien d'autres surprises. Le bingo spécial CFLS, un voyage dans le temps qui peut s'avérer très payant. Le bingo à CGMD, l'activité idéale pour le temps des fêtes. 969FM.ca pour les points de vente.
Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservé dans l'un de nos 3 restos, le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
96.9, The Alternative Radio.
Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné-cartes, cartes cadeaux, prix spéciaux, rien n'est possible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter 2 films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.